Radio Kapi.
Elle tient à une convocation d'une session extraordinaire à la Chambre haute devant tabler sur l'insécurité dans la partie est de la RDC. Finalité, mettre fin à l'état de siège et engager résolument l'armée à bouter hors territoire l'ennemi terroriste M23. Vous suivez en ouverture de cette édition l'initiatrice de la pétition, Francine Muyumba. Quelques professeurs d'université réclament pour leur part une majoration de leur salaire. Réunis au sein de la PUKIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa, ils menacent d'aller en grève si, fin de ce mois, leurs revendications ne sont pas prises en compte. Information alignée dans cette édition. Professeur Jean-Marie Kanda, doyen de la faculté de polytechnique de l'université de Lubumbashi, explique la manière dont son institution s'est déjà positionnée en termes de formation des jeunes dans le secteur minier. Nous le recevons comme invité. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Ne quittez pas car les autres éléments d'actualité, c'est juste après ceci. Oui, comme dit, une pétition est en gestation au Sénat pour exiger la convocation de la session extraordinaire au Parlement afin d'examiner la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Son initiatrice, la sénatrice Francine Muyumba, affirme que cette session aura pour but de mettre fin à l'état de siège et exiger au gouvernement de doter l'armée des moyens conséquents pour vaincre l'ennemi comme en 2013. Pour cette sénatrice du Front commun pour le Congo, si la force de l'EAC n'est pas au front pour soutenir les FRDC, elle doit quitter le pays afin de laisser la place à la force de la SADC qui, selon elle, est mieux disposée à aider la RDC. Francine Muyumba est au micro de Michel Kifindangoy.
Lorsque nous avons clôturé la session, la situation n'était pas si dégradante qu'aujourd'hui. Il y a plus de 12 villages ou territoires qui sont tombés et qui sont sous contrôle des rebelles du M23. Donc le moment que le pays est en feu, cela veut dire qu'il y a une urgence. Et dès qu'il y a une urgence, ça nous demande de nous lever et de trouver des solutions immédiates. Cela veut dire que le Parlement doit pouvoir convoquer cette session extraordinaire afin d'examiner tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Il est temps de réorganiser les commandements au niveau de l'Est. Il n'est pas tard et je pense que nous pouvons nous ressaisir. Si nous convoquons la session extraordinaire, moi, ma position est déjà claire. C'est de mettre fin à l'état des sièges et aussi aller dans le sens un peu de comprendre que le gouvernement nous apporte l'accord qu'il a signé avec la force régionale. Parce que aujourd'hui, cette force et ces troupes n'arrivent pas au front. Nous ne pouvons pas avoir des troupes qui ne se positionnent pas au front et qui n'aident pas nos militaires.
La synergie de la lutte anti-mine Silam alerte sur une explosion mardi d'une bombe blessant 6 personnes à Bouchabdaba dans Tamugenga, situé dans la chefferie de Bouezan, territoire de Rutshuru. Une autre mine a été retrouvée hier mercredi matin, non loin de l'école primaire Boudjaré à Kanyaruchinya. Nous sommes là en territoire de Nyiragongo. Le coordonnateur national de Silam demande à la population de redoubler de vigilance. Par ailleurs, Marion Ngavo déplore les difficultés dans la réponse de la lutte anti-mine dans les zones sous occupation des rebelles M23 et leurs alliés rwandais. Il est au micro de Bernardine Diambo.
Première difficulté, c'est la restriction d'accès dans les zones occupées par le M23. Deuxième difficulté, pas assez de financement adéquat pour mener les séances d'éducation risque, les enquêtes non techniques de marquage des zones et les déminages directs dans les zones polluées après le conflit. Il y a également récemment beaucoup de troubles populaires dans les zones polluées, accès moins aisé dans les villages car les routes barricadées et méfiance de la population pour certains humanitaires et leurs partenaires. Les engins explosifs comme les bombes artisanales, les mines, les mortiers, les roquettes, les grenades, les obus, les cartouches, etc. tuent, blessent, rendent pauvres et rendent handicapés. Ces engins de guerre ressemblent aux objets que nous utilisons chaque jour dans la communauté. Ne pas les toucher, ne pas les approcher, ne pas y jeter les pierres, ne pas les cacher, ni y extraire les métaux. Mais informer immédiatement les autorités locales pour venir le neutraliser.
Le signal des chaînes rwandaises sur le bouquet Canal Sat est coupé pour une période de 3 mois depuis le mardi. Canal Plus répond ainsi à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui, dans un communiqué, annonce avoir décidé de couper le signal des chaînes rwandaises émettant sur le territoire de la RDC sur le bouquet Canal Sat. Le CESAC dénonce entre autres le dénigrement des institutions congolaises par les chaînes rwandaises et l'incitation de la population à l'insurrection contre les autorités de la RDC. Michel Kifindangoé nous en parle.
Dans une notification adressée hier mardi au groupe Canal Plus RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fustige que les chaînes rwandaises s'emploient à l'intox, à l'incitation à la désobéissance civile et à l'insurrection contre les autorités publiques de la RDC. Pour le CESAC, les chaînes rwandaises dénigrent les autorités nationales ainsi que leurs animateurs et font l'apologie de la guerre. Selon cette institution d'appui à la démocratie, ces médias rwandais s'appliquent à démotiver les forces armées de la RDC au bénéfice du M23, reconnu en tant que mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Par ailleurs, le CESAC constate l'interruption des programmes diffusés par la radio nationale congolaise, par la radio nationale congolaise au Rwanda, laissant allègrement les télévisions rwandaises arroser au même moment la population congolaise à l'occasion de la visite papale du discours de la haine. D'où cette décision de coupure du signal des chaînes rwandaises pendant 90 jours, souligne le CESAC qui invite les autorités politico-administratives et judiciaires de veiller à sa bonne exécution.
La 9e édition du Festival Amani démarre demain vendredi 10 février à Bukavu et se clôture le 12 du même mois. L'édition de cette année qui a pour thème paix, développement humanitaire s'appuie sur le bénévolat au service de la communauté. Pendant 3 jours, des activités culturelles, associatives et entrepreneuriales se produiront sous le site de l'Athénée d'Ibanda. 5 têtes d'affiche avec plusieurs artistes locaux se produiront sur la scène du festival. Rachel Kiesembangu nous fait le point.
Vendredi, c'est le Congolais Inos Bi qui ouvrira le festival qui va se poursuivre samedi avec le Tanzanien Ney Wamitego. Puis dimanche, ce seront les Sénégalais Didier Awadi, le Français HK et Redi Amissi, la grosse tête d'affiche de la rumba congolaise qui seront sur le podium. D'autres artistes se produiront également. Il s'agit entre autres de Yekima, Master Bichako, mais aussi des jeunes faisant de la musique urbaine tels que Kazambe Vianney, Olivier Wabahavu, Fanfare du Kivu, la reine Saïdate, Papi Kero et les tambourinaires du Burundi. La danse traditionnelle est également prévue avec des groupes comme Fire Dance de Bukavu. Mais le festival Amani n'est pas que musique et danse, il y aura également des activités associatives et des développements avec des stands qui seront tenus par des agences des Nations Unies pour parler de leur travail et impact dans la région avec le village Kwake Shobora, entendez pour un lendemain meilleur. Il est prévu aussi l'espace entrepreneur dont le but est de promouvoir les jeunes entrepreneurs en les aidant à mettre en place des micro-entreprises. Plus de 10 projets sont sélectionnés sur 160 et les heureux élus recevront un soutien financier de 2 000 à 5 000 dollars. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
S'achemine-t-on vers une année blanche à l'université de Kinshasa? C'est en tout cas ce que craint la PUKIN, association des professeurs de l'université de Kinshasa. Elle dit regretter le non-respect des engagements par le gouvernement et plaide pour la prise en compte de leurs revendications parmi lesquelles figure le réajustement de leur salaire à partir de ce mois de février. Dans une mise au point faite mardi à Kinshasa, le président de la PUKIN exprime ses inquiétudes si les professeurs décrètent une nouvelle grève au cas où le gouvernement n'honorerait pas ses engagements pris à Bibois d'ici la fin de ce mois. Ce qui pourrait, selon lui, plonger l'université de Kinshasa dans une année blanche au regard du retard déjà accumulé par cette institution universitaire. Notez que le vendredi 3 février dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Muindo Zangi, a saisi depuis le Premier ministre afin de solliciter son implication personnelle pour la prise en compte par une paye complémentaire dès le mois de février en cours en faveur du personnel de l'ESU pour un montant mensuel de près de 80 734 millions de francs congolais. À Kinshasa, le marché de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula est à nouveau fréquenté malgré l'interdiction de l'autorité. On assiste en effet à un retour progressif des vendeurs qui reprennent leurs activités dans ce lieu des Egos qui longe la route Matadi un an après le drame qui a coûté la vie à 25 personnes. Le 2 février 2022, une rupture des câbles électriques de la SNEL a provoqué l'émoi dans la capitale suite au décès accidentel des dizaines de marchands. L'accès avait été interdit, mais cette mesure est loin d'être respectée. Pauline Massirika et Kelly Yoka ont fait le constat, suivez leur reportage.
Le marché Matadi Kibala a devenu tristement célèbre après l'accident du 2 février 2022 et à nouveau pris d'assaut par les vendeurs. Les activités commerciales ont en effet repris leur cours presque normal. Une situation que déplore Muninga Kasebe, chef de rue Mayasi au quartier Matadi Kibala. Il demande aux vendeurs de respecter la décision qui avait été prise par les autorités qui avaient délocalisé le marché.
Quelques mamans continuent à vendre encore dans cet endroit, là où s'était produit l'accident. Il y a des policiers qui viennent toujours les chasser, mais ils n'écoutent pas. Elles continuent à vendre.
De retour sur le lieu interdit, ces vendeuses des vivres frais affirment n'avoir pas trouvé mieux ailleurs.
Depuis la mort de nos proches, on était placés au camp M. Mais là-bas, au camp M, c'est la mort. On n'a plus de fonds. On ne fait qu'emprunter dans les banques et ça et là. Parce que ce marché ne nous convient pas. Il n'y a pas d'espace. Que l'État nous construise un marché comme prévu.
Rappelons que les 25 personnes mortes électrocutées le 2 février 2022, dont 23 femmes, avaient été inhumées le 11 février de la même année.
En plus bref, 3 blessés graves et une somme de près de 4 000 $ emportés, c'est le bilan d'un braquage perpétré par 3 hommes armés en tenue militaire. La voiture attaquée roulait sur la RN1 sur son tronçon compris entre Kikuit et Luangé, territoire de Gungu, province du Kwilu. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi 7 février 2023. Au centre du pays, dans le Kassai oriental, le guichet unique de création des entreprises basé en Bujima est fermé depuis près d'un mois pour insolvabilité. Ce bureau totalise près de 3 mois d'arriérés de loyer. Le propriétaire du bâtiment qui abrite ce bureau l'a fermé de force, une façon pour lui d'exiger l'apurement de la dette de son loyer. Le responsable ainsi que les agents du guichet unique ne peuvent plus y accéder. Pourtant, plus de 500 dossiers attendent d'être traités pour l'obtention de RCCM, c'est-à-dire le registre des commerces et du crédit immobilier, avant le lancement à la fin de ce mois du projet Transforme qui finance les femmes entrepreneurs ainsi que les petites et moyennes entreprises. La Fédération des entreprises du Congo fait Kassai Oriental dénonce cette situation et demande aux autorités ainsi qu'aux bailleurs de se mettre d'accord pour que ce bureau soit réouvert dans un bref délai. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC, est au micro d'Esther Dalafina.
C'est vraiment déplorable, regrettable de voir que nous avons fait 3-4 mois d'inaccessibilité de ce guichet unique de création d'entreprises ici au Kassai Oriental pour raison d'Internet. Alors tous nos efforts ont été focalisés vers le gouvernement central qui a payé la connexion Internet. Aujourd'hui, c'est le problème d'inaccessibilité due au non-paiement de loyer. Ce qui est encore grave, c'est que le gouverneur de province et le député propriétaire de ces bâtiments ne peuvent pas trouver un compromis pour qu'en attendant que le gouvernement central se mobilise pour le paiement de loyers, le bureau soit ouvert afin de faciliter les opérateurs économiques à l'obtention de RCCM. Il y a plus de 1000 dossiers qui attendent le traitement alors que le responsable de guichet unique ne peut pas accéder à ce bureau-là parce que le loyer n'est pas payé, parce que le service de mobilisation des recettes réclame au propriétaire du bâtiment l'impôt sur le revenu locatif alors que le loyer n'est pas payé. Tout ceci, le peuple d'abord n'est pas à sa place. Aujourd'hui, le peuple devrait être servi, le bureau ouvert, mais malheureusement, on préjudicie le peuple. Cette situation que nous déplorons aujourd'hui.
Contacté, le propriétaire du bâtiment dit avoir constaté l'absence prolongée au bureau des agents du guichet unique de création des entreprises. Il reconnaît cependant le non-paiement des 3 mois de loyer par ce service. La vie des Congolais à l'étranger rime aussi avec ces moments de convivialité passés entre compatriotes autour d'un verre et d'un repas composé des aliments venus directement du pays. Après Toria, capitale politico-administrative de l'Afrique du Sud, beaucoup des ressortissants congolais se retrouvent chaque jour au restaurant La Grâce pour revivre la chaleur du pays. L'établissement appartient à une femme congolaise qui ne propose que de la nourriture congolaise. Parti couvrir prioritairement les opérations d'enrôlement des électeurs en Afrique du Sud, Gassam Zati, notre envoyé spécial, a visité ce restaurant. Il signe ce reportage.
Ce bruit semblable à un malewa de la Tchango provient du quartier Sani Saïd en plein centre-ville de Pretoria, au restaurant La Grâce où les Congolais se retrouvent régulièrement. Freddy est l'un d'eux.
Ça se passe bien puisqu'on s'est retrouvé dans un restaurant de notre sœur congolaise. Je me suis senti à l'aise vraiment.
J'ai trouvé des matembele
et puis j'ai trouvé des thomson.
Fikiri parcourt des longues distances pour manger dans ce restaurant presque tous les jours. Il se sent comme s'il vivait encore à Uvira.
Moi, je me trouve au Congo avec le matembele. Je suis venu de loin pour que je mange comme ça. Donc, je me sens vraiment, en tout cas, à l'aise.
Et pour Fideli, que l'étranger ne nous fasse pas oublier nos origines. Je mange les poissons et les fumbo parce que c'est notre culture. Ce n'est pas parce que tu vas dans un pays étranger que tu dois changer totalement. Par exemple, moi là, que j'imite les Sud-Africains en tout. Ça, non. Je ne peux pas oublier mes origines. Pour Maman Déborah, propriétaire du restaurant, cette chaleur des Congolais n'est pas du tout facile à gérer.
Là où il y a des Congolais, il faut avoir seulement un grand cœur et un bon cœur. Ils viennent manger pour 5 personnes, 6 personnes. Ils viennent faire. Il faut remplir, manger pour 50 personnes.
Mais vous êtes quand même adapté.
Bien sûr, j'ai adapté. Je reçois les Sud-Africains, j'ai les clients camerounais, j'ai les clients nigériens.
Pretoria, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'ex-chancelière allemande Angela Merkel reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny. Le jury a voulu distinguer la décision courageuse prise en 2015 d'accueillir plus d'un million de réfugiés quand, au même moment, tant de voix appelaient à clôturer l'Europe. Vous avez été à ce moment-là la vision du courage en politique, a déclaré Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, mercredi lors de la remise du prix. L'Ouganda ne renouvellera pas le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies des Droits de l'Homme qui doit prendre fin cette année, estimant avoir développé des institutions internes dynamiques sur les droits humains. Annonce mercredi à l'AFP du gouvernement aussitôt critiquée par l'opposition. D'après les autorités ougandaises, le gouvernement poursuivra sa coopération avec le siège du HCDH directement ou par l'intermédiaire de sa mission permanente à Genève.
L'invité.
La RDC, pays minier par excellence, dispose d'une offre de formation adaptée à ce secteur. Déclaration du doyen de la faculté de polytechnique de l'université de Lubumbashi en marge de la conférence minière internationale Indaba. Professeur Jean-Marie Kanda salue également la création de l'école des mines de Kolwezi qui permettra de répondre efficacement à la demande d'expertise de l'industrie minière. Le professeur Jean-Marie Kanda s'entretient à Cape Town avec notre envoyé spécial sur place, Cynthia Bachizi.
Professeur Kanda, bonjour.
Bonjour.
On parle beaucoup du fait qu'il faut laisser la chance aux Congolais dans le secteur minier. Est-ce qu'on a l'expertise?
Merci pour la question qui est pertinente. Oui, je puis confirmer que la jeunesse congolaise ou le diplômé, même si j'aime pas toujours utiliser cette expression congolais, a de l'expertise. Mais ici, il faut voir que la formation au Congo, au-delà de délivrer un diplôme, se focalise sur l'acquisition des compétences par rapport à l'exercice du métier d'ingénieur, si je ne peux parler que du métier d'ingénieur. Donc, à votre première question, j'aimerais rassurer ici que l'expertise, il y en a. Certes, sur, par exemple, la chaîne des valeurs, on peut dire minérale, on n'a pas toujours à tous les maillons les expertises requises, mais sur, par exemple, 6 maillons de la chaîne des valeurs de l'usine des batteries, par exemple, si je peux parler, sur les 6, 4 sont déjà une certitude pour la RDC. Il y en a 2 pour lesquels un programme de formation est lancé pour réellement améliorer l'offre de formation sur ces 2 maillons-là.
Justement, quelle est aujourd'hui l'offre de formation qu'il y a dans le secteur minier, par exemple, pour un jeune Congolais qui veut commencer l'enseignement supérieur?
En fait, l'offre est offerte par déjà les facultés polytechniques, notamment celle de l'université de Lubumbashi, celle de l'université de Kinshasa, ainsi que des autres universités privées et publiques établies sur le territoire. Et l'offre se base sur ce qu'on appelle une approche par compétences. Donc, il faut évaluer et établir un référentiel métier sur les métiers d'ingénieurs et les métiers dans le secteur minier. Et au-delà de ça, déterminer les compétences requises ou exigées pour l'exercice de ce métier-là qui sont déjà préalablement identifiés. Et maintenant, conformer l'offre de formation à ces métiers-là. Et donc aujourd'hui, le jeune qui vient, qui choisit de devenir ingénieur, il se pose la question de savoir s'il veut être un ingénieur technico-commercial, il veut être un ingénieur qui va travailler dans la recherche et développement, il veut être un ingénieur à la production, il veut être un ingénieur pour demeurer dans le secteur de l'éducation et de la formation. La faculté polytechnique et d'autres facultés aujourd'hui, celles que je dirige en tout cas, réfléchi, nous sommes prêts à offrir cette formation. Donc aujourd'hui, on le fait pour les métallurgistes, pour les chimistes, les électromécaniciens, les ingénieurs en mine, en génie logiciel et intelligence artificielle, et en mineral processing, et dans d'autres domaines pointus demandés dans le monde du secteur minier. Moi, quand j'étais étudiant, toute la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi faisait peut-être 700 étudiants. Aujourd'hui, on a autour de 3000 étudiants. Le nombre de filles a sensiblement augmenté, ce qui est une bonne chose, et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde.
Comment est-ce que vous accueillez l'ouverture, la création de l'école des mines à Kolwezi?
L'école de mines, avec le soutien de ERG et l'université de Kolwezi, est une bonne expérience que j'encourage, et je demande à d'autres entreprises minières d'aller dans ce sens-là. Je l'encourage, pourquoi? Parce que elle permet à montrer qu'il y a lieu de mettre ensemble le monde industriel et le monde académique, et voir comment on peut arriver à faire des programmes qui répondent réellement aux besoins du monde industriel. Donc ERG, avec ses usines, que ce soit Metalcore ou Frontier, a compris qu'il y a lieu d'avancer sur ce schéma-là. Mais Glencore est en train de venir aussi certainement, ainsi que d'autres. Je trouve que c'est une bonne chose. Ce que j'aurais souhaité, c'est que l'offre d'inscription à l'école de mine ne soit pas nécessairement réservée aux anciens de l'université de Kolwezi, tel que j'ai pu le voir dans la publicité.
Je vous remercie.
Voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Péléquipé Lamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Ivan Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci.